m'entendez?
Où en étais-je?
Oh, pourquoi reviens-tu?
Comment raconter sa vie et c'est quoi une vie d'ailleurs? Des souvenirs et des actions, des rencontres décisives, des détails souvent et des mots qui racontent le temps et la saveur. Ah, le bonheur d'une ice cream sous la plume de Leslie Kaplan.
Écoutez-vous au lieu de vous piller.
Culture vive, Pascal Paradou.
Depuis 1982, date de son premier livre, Leslie Kaplan écrit son autobiographie sous des formes différentes et par fragments. Et avec son dernier texte, Mon Amérique commence en Pologne, elle revient sur l'enfance et cette naissance à Brooklyn, New York, États-Unis. Bonjour Leslie Kaplan.
Bonjour.
Est-ce que le mot autobiographie vous va? Parce que je sais que c'est compliqué. Hein.
Écoutez, je crois que autobiographie, c'est pas tout à fait ça quand même. Il me semble que je donne des éléments autobiographiques, ça oui, sur lesquels je m'appuie pour raconter le monde, j'espère, en tous les cas, ou et moi dans le monde certainement, mais aussi d'autres, des gens que j'ai connus, mais aussi des personnages de fiction. C'est-à-dire que le mot autobiographie, j'ai peur qu'il soit un peu enfermant.
Un peu trop égocentrique.
Voilà, on peut dire.
C'est vrai qu'autobiographie, fiction, dans toute votre œuvre, il y a maintenant une quinzaine de livres à peu près, la frontière n'est jamais nette.
Oui, en même temps, bon, par exemple, Le Pont de Brooklyn, qui est mon premier roman, bon, il y a longtemps, se passe bien sûr, enfin, comme le nom l'indique, à New York, mais et les gens que je, qui les personnages sont des personnes qui habitent New York, mais est-ce que c'est vraiment des petites excroissances de moi? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, ça se passe aux États-Unis et on sait que les États-Unis ne sont pas tout à fait étrangers à votre parcours, à votre biographie. En tout cas, si, bon, on ne va pas rester comme ça sur les mots pendant des heures, mais s'il y a des éléments d'autobiographie, vous ne commencez pas forcément par le début. Votre premier livre que je citais, ou l'ai-je cité, je ne sais plus, L'Ex-Élusine, en 82, ne raconte pas du tout le début de votre vie.
Non, c'est vrai. Il raconte ce moment particulier d'usine. Et en fait, tout de même, le pronom, c'est « on ». C'est-à-dire, je voulais vraiment parler de ce que c'est qu'une usine et les femmes qui travaillent à l'usine. Donc, il n'y a pas de « je » dans ce premier livre.
Pour autant, c'est une expérience vécue, puisque en 68, c'est ce qu'on appelait établi. Vous avez été établi, c'est-à-dire qu'intellectuel, vous avez été travailler dans les usines.
Tout à fait.
Et de là est né le désir d'écrire?
Je pense que le désir d'écrire, ça c'est difficile de le situer, mais j'ai l'impression que je l'ai toujours eu, mais c'est vrai que c'est tout de même le premier livre que j'ai absolument voulu voir publié.
En même temps, il a été publié beaucoup plus tard.
Oui. Enfin,
68, 82.
Tout à fait. Je n'ai pas écrit pendant que j'étais à l'usine. Bon, ça non.
Et entre-temps, vous avez fait des études de philo, de psychologie et de littérature. Alors aujourd'hui, donc, sort ce nouveau texte, Mon Amérique commence en Pologne. Là, pour le coup, vous arrivez au début. C'est Je suis né à Brooklyn.
Oui, c'est vrai. Mais je voulais revenir sur l'enfance et peut-être sur la question aussi de cette double langue, le français, l'anglais. Qu'est-ce que c'est que d'être une Américaine élevée complètement tout de même à Paris?
Je suis né à Brooklyn, j'ai été élevée à Paris. C'est ça la phrase complète.
Oui, est-ce
que ça donne une double culture?
Je pense que oui. Ça donne en tous les cas un écart par rapport à la culture d'un pays. Enfin, en fait, dans un pays, il y a souvent plusieurs cultures, mais ça donne une sorte de différence, de sens de la différence, je crois.
Parce que vous avez passé combien de temps en Amérique?
Je suis venue en Amérique quand j'avais 2 ans et demi, c'est quand même petit. Alors, à part ça, j'y retournais tous les étés, entre autres pour voir ma grand-mère, bien sûr. Donc, il y avait tout de même les deux pays, mais je suis venue très petite.
Mais vous n'avez presque pas de souvenirs, d'ailleurs, d'enfance.
C'est-à-dire, en même temps, comme mes parents étaient vraiment des Américains, vivant comme Américains à Paris, il y avait de l'Amérique à Paris.
Vous dites jamais États-Unis, ou rarement. Pourquoi Amérique?
Peut-être parce que le mot me plaît. C'est le mot des rêves, tout de même. Tout le monde rêve de l'Amérique. Parfois, on le concrétise pas avec le mot États-Unis. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, on vend en Amérique le mythe de l'Amérique.
Vous savez quelle est votre langue, Leslie Kaplan?
Ben justement, je pense que j'en ai deux et peut-être j'écris pour essayer de les tester toutes les deux, parce que même si j'écris en français, bon, depuis toujours, je pense toujours qu'il y a de l'anglais dessous.
C'est-à-dire ?
Eh bien voilà, je pense que ça concerne à la fois les rythmes, les rimes, les assonances, bon, quelque chose qui est sous le français, bon, enfin disons sous mon français à moi.
Ce qui ferait le style Leslie Kaplan.
Ah, peut-être.
Alors dans ce livre, Mon Amérique commence en Pologne, Leslie Kaplan, vous parlez beaucoup de cinéma, vous citez beaucoup de films, dont l'un est signé Roberto Rossellini, c'est Paisa, oui. Qui raconte la libération de l'Italie, et plus précisément de Naples, par les soldats américains. Oui. Et vous dites, c'est ma préhistoire.
There's New York, New York, New York, and there's Luna Park over there. And there's a million skyscrapers with 1,000 lights to welcome me home. I'm a hero, Paisan, and I'll take you up Wall Street. Up Wall Street, with a ticker tape for me, that's for me, the celebration for me. Yeah, for me, and you. And there's City Hall over there, I'll introduce you to the mayor. Hi, Mr. Mayor. He says everything is prepared for me. Now we'll go up Broadway. Broadway's the biggest street in the world, and it's my street. I own Broadway to the Waldorf Astoria. When we go into the Waldorf Astoria, you have to be careful. Only the elite. Now we're in the Waldorf, and look at the big, thick cushions and the gold furniture. 1,000 servants, all for me to serve me because I'm a hero. I'm a hero. Now we're going to eat. Look at the food. Look at the food. Caviar. There's chicken. There's turkeys. Wine, whiskey, beer, champagne, everything for me. Eat as much as you want, Paisan. Eat it. I've got enough to eat. Now I think we'll go to sleep. Come on, we'll go to sleep.
Nobody knows the troubles I... Merci, Kaplan, j'ai pas besoin de vous faire la traduction.
Ah ouais, c'est une séquence absolument extraordinaire, vraiment, de Paisa, où il y a, un soldat noir américain qui rencontre un petit gamin des rues à Naples. Et ils sont, c'est vraiment un moment inouï de ce film où ils se retrouvent. Là, il vient de raconter qu'est-ce que ça va être son retour aux États-Unis. Il va revenir comme héros. Bon,
avec du caviar,
du whisky, du champagne, il va descendre Broadway, il va être accueilli de façon extraordinaire. Et il se met à jouer de l'harmonica, il fascine complètement le petit môme. Et en même temps, c'est ça qui est extraordinaire chez Rossellini, ça se retourne tout de suite. Il sait très bien, ce soldat noir, que quand il va revenir, ça va pas être bien du tout. Il y aura... comme il y avait à l'époque tellement le racisme, et il se déprime, et d'ailleurs finalement il dort, et le petit gamin lui dit, dors pas, si tu dors, je vole, parce que le petit gamin, il a rien. Bon, et puis je raconterai pas la suite.
Il vole l'harmonica.
Vole les chaussures, il vole complètement le soldat.
Pourquoi, Leslie Kaplan, ce film a-t-il une telle importance? Parce que vous consacrez pas mal de pages dans votre texte Mon Amérique commence en Pologne à ce film. Et pourquoi vous dites c'est ma préhistoire?
Ben parce que mon père est venu, alors pas, il s'était engagé même avant la déclaration de guerre, et bon, du côté des alliés contre les nazis, et il a débarqué lui en Afrique du Nord, il a donc remonté aussi, enfin après il est arrivé à Paris, mais disons que c'est quelque chose qui est pour moi très important, l'alliance, si on peut dire, entre les Américains, la démocratie américaine et la lutte contre le nazisme. Bon, et je pense que, disons que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Alors, dans justement ce mot Amérique, bon, et ce que Rossellini raconte dans Paisa, c'est ça, c'est-à-dire que c'est les soldats, c'était un peu les soldats complètement ordinaires, Joe from Jersey, Joe du New Jersey, qui est laitier et qui fait une alliée, bon, qui connaît une jeune femme italienne, bon, et le combat contre les nazis.
Votre père reste en France, en fait, parce qu'il devient attaché culturel des États-Unis, puisque ça s'appelle quand même des États-Unis, à Paris. Oui. Et en fait, votre texte, votre livre, votre roman, votre autobiographie, Leslie Kaplan, raconte ces années heureuses.
Oui.
Vous cherchez en France des traces de l'Amérique. Il y a un moment comme ça assez rigolo où vous allez à Neuilly chercher des produits américains.
Oui.
Là, on est vraiment dans une autre époque.
C'est-à-dire, c'était tout de même juste après la guerre. Bon, dans les années 50, il y avait encore des PX, des Post Exchange. Donc, les gens de l'ambassade pouvaient avoir tous les produits américains. Alors, les chocolats, les Hershey Bars, bon, les produits en boîte, enfin, le pain blanc, le pain de mie blanc, etc. Chose qu'il n'y avait pas en France. Bon, et ma mère nous emmenait faire des courses là-bas, puis sans parler des vêtements, des blue jeans et tout ça.
Vous deviez être super branchée. Non, à l'époque. Ah,
certainement, c'était très bien d'être la petite américaine à ce moment-là. Bon, en même temps, c'était compliqué. Bon, peut-être.
C'est à ce moment-là, dans le livre, que vous racontez la saveur de l'ice cream.
Oui.
Et vous dites que ça n'a pas du tout, mais du tout, le même goût que la glace.
Oui.
Mais ça, c'est une affaire de mots, non ?
Non. Oui et non. Enfin, je crois que d'une part, les goûts étaient différents. Et puis, bien sûr, le goût, c'est certainement aussi comment on investit les choses, comment on les aime. Et la façon dont les Américains faisaient les glaces, les ice creams, était certainement pas la même.
Vous racontez aussi la différence qu'il y a entre frigidaire et garde-manger.
Oui, ça c'est vrai. Mais le garde-manger, c'est typiquement français, par contre. Bon, le mot même, je ne le connais pas ou je ne le connaissais pas à l'époque. D'ailleurs, je le connais toujours pas. En anglais.
Et frigidaire, en revanche, c'est l'American way of life, c'est la modernité, etc. Vous dites, et ça c'est assez passionnant, et c'est là où vous êtes écrivain, vous dites que la langue contient une façon de vivre.
Oui. Ben, ça, je pense que sans me le formuler comme ça, parce que bien sûr, ça je ne pouvais pas le faire à ce moment-là, je crois que je me rendais compte que les mots et la façon de faire les phrases, de construire les phrases, c'était toute une culture.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots anglais
dans le livre,
dans vos textes, dans le livre, dans vos livres globalement.
Oui, c'est vrai. J'aime bien qu'il y ait des phrases en effet en anglais que je traduis parce que je n'aime pas qu'il y ait des phrases que le lecteur X ou Y ne puisse pas comprendre. Donc j'aime bien donner la phrase en anglais et la traduire.
Vous dites dans un autre texte dont on parlera tout à l'heure, toute ma vie j'ai été une femme, tiens donc, j'ai du mal à ajuster les mots et les choses.
Oui. Eh bien, peut-être c'est cette question de double langue qui m'a donné ça, c'est-à-dire finalement quelque chose que je crois être très important pour moi comme écrivain, l'étonnement devant le langage. C'est-à-dire que, comme je dis d'ailleurs un peu dans mon Amérique, les mots vont et ne vont pas de soi, c'est-à-dire qu'un mot qui peut sembler évident, eh bien il n'est pas si évident que ça.
Donc ice cream, ça ne peut pas se traduire par exemple ?
Eh bien, c'est bien sûr, si on dit crème glacée, mais franchement, c'est pas du tout ice cream.
Alors, De Paista, le film donc de Rossellini, Leslie Kaplan, vous racontez donc l'importance, vous racontez votre admiration pour Rossellini en affirmant que vous aimeriez écrire comme Rossellini filmé, c'est-à-dire le détail et le détail. Et votre écriture, en effet, ressemble à cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes envolées, il n'y a pas un côté fresque historique, mais vous racontez des faits très précis, une chose, comme si le mot permettait de faire exister le souvenir ou la chose.
Oui. Il me semble que dans le détail, qui n'est pas la même chose qu'une anecdote, dans le détail, il y a quelque chose d'une condensation. Bon, vraiment, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est le reflet du monde en petit, on pourrait dire. Si on regarde bien un détail, si on scrute un détail, on voit un état du monde, un état des choses à un moment donné. Une anecdote, c'est quelque chose sur laquelle on peut passer, qui n'a pas vraiment, qui est vide, qui n'a pas d'intérêt. Alors que dans un détail, c'est un condensé de sens, une multiplicité de sens en un. Et bon, évidemment, peut-être c'est quelque chose qui relève, on pourrait dire, de la poésie ou du poème, mais je pense que c'est, pour moi, en tous les cas, c'est très important.
Donc vous êtes un écrivain de détails.
J'aimerais l'être.
Alors vous citez Rossellini dans ce texte, Mon Amérique commence à Pologne. Vous citez aussi Godard, qui lui aussi a raconté des histoires d'américaines à Paris.
Yes, she's over there.
Merci.
New t'accompagne, Aaron. Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où, Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune!
Je t'en prends un.
C'est joli.
Godard à bout de souffle avec la somptueuse Jane Seberg, cela renvoie forcément aux années 68. Pour vous, Leslie Kaplan, c'est presque un premier film. Enfin, vous le racontez comme ça, en tout cas.
Bah, je l'ai quand même vu à sa sortie. Bon, au moment où il est sorti, ça m'a complètement, bien sûr, marqué. Et je pense que, à la fois, parce que, bien sûr, en effet, il y avait Jane Seberg, américaine à Paris, qui vendait le Herald Tribune. Il y avait Belmondo. Mais il y avait aussi le héros que Belmondo aime tellement, qui est Humphrey Bogart, qui est comme ça en affiche dans le film, et qui représente quelque chose du héros américain, qui est encore un héros américain, c'est-à-dire quelqu'un qui sent en faire toute une histoire, se comporte correctement, est du bon côté, fait ce qu'il faut, le héros en somme, le héros simple.
Vous associez l'Amérique à héros?
Tout de même, comme je suis quelque part issu de cette Deuxième Guerre mondiale, où les Américains ont été du côté du bon côté, bien sûr, lutte contre le nazisme, lutte pour la démocratie, contre l'horreur totale, oui, certainement, à ce moment-là.
À propos, c'est important à ce moment-là.
Bien sûr.
Ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux ces quelques semaines.
Très nettement mieux là.
Très nettement mieux. Alors à propos de À bout de souffle et de Godard, vous citez beaucoup de films de Godard, oui, dans votre livre. Oui. C'est vrai que ce sont des films emblématiques de ces années-là, de ces années où l'amour, oui, n'est pas séparé de la, oui, pensée, comme vous, oui, l'écrivez, Leslie Kaplan. Et j'ai l'impression que Godard vous a donné, non pas une façon de vivre, mais au moins une façon d'être au maximum dans la vie.
Oui, oui. Je pense que pour les gens qui ont suivi ces films, tout de même, il a donné une façon de se situer, un certain point de vue, une certaine façon de voir le monde, qui est certainement à la fois très libre et très complexe, parce qu'effectivement, comme j'essaye de l'écrire, c'était toujours tout par tous les côtés en même temps, c'est-à-dire la politique, l'amour, les idées, la vie, les sensations, et ça on l'a vraiment avec les films de Godard, pas seulement, les films de la nouvelle vague peut-être.
Mais
en
est-ce
général.
Qu'une époque se raconte par son cinéma? Le cinéma.
Ça je pense que oui, comme il peut se raconter par la littérature, certainement. Le cinéma est certainement quelque chose qui, quand il est bon, évidemment, capte vraiment l'état des choses à un moment donné, oui.
Vous citeriez quel film aujourd'hui pour raconter notre époque?
Christian
Piège. Ah, si on vous parle des films des années 60-70, Godard,
mais
oui.
Je crois que peut-être aussi ce qui se passe, c'est que j'ai pas peut-être tout à fait suffisamment de recul. Je sais pas, il y a des films que j'ai vus. C'est pas forcément des films français, mais là, le premier qui me vient, parce qu'il a aussi une forme tellement différente, c'est Valse avec Bachir. Ça m'a beaucoup, j'ai trouvé ça très très fort. Comme témoignage aussi, c'est pas que ça, historique de maintenant.
Alors je citais tout à l'heure Leslie Kaplan, cette façon de citer les fragments, de donner des mots qui permettent de voir. C'est vrai que vous donnez un titre de film et le film est là dans le livre, et c'est vrai que vous, dans tout le roman, vous donnez envie comme ça d'aller chercher, d'aller imaginer ce qu'il y a dans les mots, et vous m'avez donné par exemple envie de chercher à quoi ressemblait cette chanson que vous citez.
Steht sich doch in Gesalen, still vertracht der Heisalen, drinnen auf dem Beudenstiebel wohnt mein Teier Heisalen. Jeden Abend fahren Heisel, dreh ich mir herum, ich gib a Pfaff und ruf aus Reisel, komm, komm, komm. Heffen sich a Fenster, wacht auf heite Heiselen, und bald klingt im stillen Gessel, as is call mein Reisalen. Noch a Weile wacht mein Lieber, bald werd ich sein frei. geh sich noch a Pulmuribel ein, zwei, drei. Geh ich mir a Freilicher, sing und knack mich nissalech. Herr, ich hob die Trepplech springen, ihr drobne Fissalech. Scheuner Rupf und letzten Treppler.
Reisele, c'est comme ça qu'on prononce, Leslie Kaplan. Ça, c'est dans votre histoire aussi, mais c'est encore avant. C'est la chanson de la grand-mère. Ça arrive à la fin du livre, Mon Amérique commence en Pologne. Mais c'est le souvenir encore hanté.
Bah, disons que c'est une chanson en yiddish. Bon, ma grand-mère parlait yiddish avec ma mère. Bon, donc c'est encore une langue qui est en dessous. Et donc les chansons yiddish, dont celle-là, qui est une chanson d'amour, très 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 belle, je trouve, était là aussi. Enfin, ça fait partie certainement de ce qui m'a nourrie, on peut dire.
Et cela explique le titre de votre livre, Mon Amérique commence en Pologne.
Voilà.
Parce qu'il y a donc cette histoire, cette double migration, dites-vous, de Pologne. Qui partent en Amérique et d'Américains, dont vous qui arrivez, revenez en Europe.
C'est ça, c'est-à-dire de Juifs polonais, il faut préciser, en ce sens que c'était pour eux que la Pologne était invivable et c'est eux qui allaient chercher une autre vie, une vie nouvelle en Amérique.
Parce que quand on dit double culture, en fait c'est triple culture.
Oui.
C'est culture juive, culture américaine et culture française.
Absolument.
Ça fait quelle bonne femme, ça, Leslie Kaplan.
Eh bien, ça fait toute ma vie, j'étais une femme. Le titre d'un livre précédent.
Une femme écrivain qui publie donc Mon Amérique commence en Pologne. Merci beaucoup, Leslie Kaplan. Donc, ce livre est édité aux éditions POL, de même que toute ma vie, j'ai été une femme, on en a peu parlé, mais c'est un texte, en fait, pour le théâtre.
Oui.
Écrit pour des comédiennes, et le texte sera en représentation avec Frédéric Lollier et Élise Vigné à la Maison de la Poésie à Paris jusqu'au 29 mars, sous le titre « Duetto 5, toute ma vie j'étais une femme ». On n'en dit pas plus, ça fait un peu de suspense, c'est pas mal.
RFI, Radio France Internationale.
La marée, elle est dans le cœur. Si je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon si un bateau, ça dépend comment on l'arrive en port de justesse. Pleure de mon firmament, les années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de prime te lancer la brume en baiser. Te ramasser dans ses rives comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre.
Michel Jonas, La mémoire et la mère de Léo Ferré, mais par Michel Jonas, qui est en tournée actuellement à l'Impilo et notamment à Paris.
Oui, Michel Jonas qui ne mangeait pas des ice cream, comme le disait Leslie Kaplan tout à l'heure, mais des glaces à l'eau à l'époque. Souvenez-vous qu'il suçait des glaces à l'eau. Il était mardi et mercredi soir au Casino de Paris dans une formule peu habituelle pour cet artiste friand des grandes formations avec cuivre. Son spectacle est composé de ses célèbres chansons et de titres de son dernier album Chansons françaises, dont on vient entendre un extrait. Ce disque est le premier volet d'une trilogie qui donnera suite à des morceaux blues, puis il refermera ce projet en rendant hommage à la musique tzigane, lui dont la famille est d'origine juive hongroise. Je suis presque certain, Leslie, que vous ne serez pas insensible à ce troisième volet.
Alors avec qui est-il sur scène, Alain Pilot ?
Eh bien, aux côtés de Michel Jonas, Guillaume Poncelet au clavier, Stéphane Edouard aux percussions. Inévitablement, cette formation minimaliste va donner une nouvelle vie aux morceaux qu'interprète Jonas au cours de cette tournée. Et c'est souvent très intéressant de redécouvrir des chansons qu'on a longtemps fredonnées de cette manière.
Alors, tournée dit souvent première partie, et je crois que vous voulez signaler, vous m'avez dit, je veux absolument parler de l'artiste de première partie.
Absolument, c'est vrai que si on avait le temps, on le ferait très régulièrement. Mais parce que il s'agit d'Alain Goldstein, qui est un ami d'enfance de Michel Jonas, avec qui il va former les Lemons pour accompagner un chanteur noir marocain Vigon pour des soirées dans des discothèques. Michel se met à chanter, lui, en 1967, toujours avec Alain Goldstein. Il enregistre un premier 45 tours sous le nom de King Set, leur nouveau groupe, et ils écrivent également pour d'autres à la fin des années 60, début des années 70. années 70. Eh bien, je vous propose d'écouter Michel Jonas, non pas Alain Goldstein, mais vous, si vous êtes sur Paris, allez voir cette première partie.
Au Casino de Paris, voilà. Hein, on ne le dira pas assez.
Et Jonas est ici en public, pas en trio à l'époque sur ce disque. Et j'ai choisi pour vous les Slick Kaplan, La vie sans mort, vous qui avez écrit Pensez la mort.
Larguez les amarres qui nous empêchent et toute voix dehors. Partir pour la terre nouvelle. Partir au hasard, mais partir pour quitter le port. Nous appelle pour tirer l'encre qui nous empêche et tout droit dehors. Traverser les zones qui recourent. Le soleil intime enfin.
Michel Jonas au Casino de Paris les 3 et 4 mars, biographie et discographie complète sur rfimusique.com et pour nous écrire, vous connaissez l'adresse culturevive@rfi.fr, je vous lirai avec plaisir. Culture Vive avec Florence Pons, réalisation signée Nicolas Piga, Fabien Meunier à la technique. Demain, nous serons en compagnie de la comédienne Miu Miu. Bien à vous et à demain.